Quels sont vos sentiments à l'égard de la police? Bon? Mauvais? Franchement répulsif? Barrez la mention inutile, inutile, inutile de mentir. De mentir!
Mon Rital demeure au château, beau comme un seigneur. Tous les soirs il me joue du flutio sur un air du rondo veneziano.
Je m'appelle Shailene et je suis avec mes camarades Thomas.
Bonjour.
Et Mélina.
Salut.
Je suis en CE2 dans la classe de maîtresse Jade dans l'école Maurice Torres B.
Et moi dans la même école mais en CM1 CM2 avec Shailene.
Nous allons vous présenter le sommaire de l'émission Radio Cartable d'aujourd'hui.
Voici le sommaire.
Mais c'est le 29 février aujourd'hui. C'est une année bissextile.
J'aimerais pas avoir mon anniversaire le 29 février, moi. On les fêterait que tous les 4 ans.
Moi non plus.
À 14h03, nous écouterons une nouvelle rubrique. Cette année, Radio Cartable fête ses 40 ans.
Vous allez donc entendre des enfants qui sont enregistrés en 2020, peut-être, ou en 2000, ou en 1989, ou bien en 1312.
Mais non, Thomas, tu exagères. Radio Cartable est né en 1984.
À 14h08, nous écouterons les actualités d'ici et d'ailleurs présentées par les CE1 de l'école Rosaline Franklin.
À 14h13, école libriste. Dernière partie de la rentrée littéraire, nous allons enfin vous dévoiler quel album nous avons élu le meilleur de l'année.
À 14h23, passeurs et passeurs de poèmes. Séquence réalisée par les élèves de CE1 de l'école Rosaline Franklin.
À 14h30, séquence réalisée par les CE1 de l'école Rosaline Franklin sur la politesse. À partir de la fiche des essentiels, un jour une actu.
À 14h38, les petits correspondants du théâtre. Séquence réalisée par 12 enfants du centre de loisirs de l'école Torres. Interview de Tony Melville. Après avoir visité le théâtre et vu le spectacle en apparence, les petits correspondants ont eu la chance de poser leurs questions au directeur artistique du spectacle, également chanteur et musicien.
14h45, reportage dans mon cartable. Séquence réalisée par la classe de CM2 de l'école Rosaline Franklin. Interview de Hugo Legoff, paysagiste conseiller au CAUE
et de deux écoliers délégués sur les aménagements des cours de récréation.
La chance.
Et voilà, on espère que ce programme vous intéressera.
Bonne écoute et au revoir.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Bonjour, je m'appelle Abdelbasset.
Et moi, Fatoumata, nous sommes la classe de CE1A.
Bonjour, je m'appelle Naïl.
Et moi, Issia, nous sommes à l'école Rosaline Franklin.
Bonjour, je m'appelle Célestine.
Et moi, Mohamed Ali, nous vivons à Ivry-sur-Seine.
Bonjour, je m'appelle Sarah.
Et moi, Chaynès. Nous avons 7 ans.
Voici notre revue des 1 du mois de janvier.
Notre premier journal du mois nous propose de bouger.
8 enfants sur 10 ne font pas assez de sport.
Un jour, une actu propose aux élèves de CM1, CM2 et 6e de participer à un concours pour faire bouger les enfants. Il faut réaliser une vidéo de 2 minutes pour donner envie à d'autres classes de bouger.
En 2024, on va battre le nombre de personnes appelées à voter.
Et oui, un peu partout dans le monde, les adultes vont voter cette année.
Les pays de l'Union européenne voteront en juin.
Les États-Unis votent, eux, en novembre, par exemple.
Un jour, un actus nous alerte sur les bouteilles d'eau en plastique.
En effet, la France est le 11e pays qui consomme le plus de bouteilles d'eau dans le monde.
Mais il y a deux problèmes. Les bouteilles en plastique sont responsables de beaucoup de déchets et donc de pollution.
Des chercheurs viennent de montrer qu'en buvant de l'eau de ces bouteilles, on ingère du plastique.
Pour le dernier numéro du mois, un jour en actu, nous parlons des composts.
Le compost, c'est terre très riche qu'on peut utiliser pour faire pousser les plantes grâce à beaucoup de nos déchets.
Les épluchures, les fruits et les légumes, les coquilles d'œufs, etc.
Et depuis le 1er janvier, une loi oblige les villes à organiser le tri de ces déchets pour les recycler et faire du compost.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un mois pour la revue de presse des unes du mois de février.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Libris.
École Libris.
Les livres
qu'il faut
lire,
lire,
lire.
Bonjour et bienvenue dans École Libris. Nous sommes les CM1, CM2 de l'école Maurice Thorez B. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième et dernière partie sur la rentrée littéraire.
Rappelez-vous, nous avons lu 5 livres que nous avons présentés, résumés, puis critiqués. Enfin, nous avons voté pour notre livre préféré.
Dans la dernière émission, nous vous avions annoncé le grand livre vainqueur. Il s'agit du recueil de poèmes « Prends de la route » écrit par Michael Rosen et illustré par Quentin Blake.
Cette semaine, nous allons donc mettre ce livre à l'honneur.
Tout d'abord, il est important de dire quelques mots sur le poète Michael Rosen. Michael Rosen est né en Angleterre en 1946. Il est auteur et metteur en scène de théâtre, reporter radio, enseignant, romancier et poète. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands auteurs pour la jeunesse de sa génération. Il défend toujours la littérature, la lecture et l'écriture pour les enfants. Il a été désigné ambassadeur pour la littérature de jeunesse en Grande-Bretagne en juin 2007.
Michael Rosen est le fils d'émigrés juifs qui ont fui leur pays d'origine au moment de la Seconde Guerre mondiale. La migration de sa famille et la guerre lui ont inspiré des poèmes tout au long de sa vie.
Ainsi, dans ce recueil sont regroupés des poèmes qui parlent de son enfance et de sa famille, de la guerre, de la migration de ses proches, puis de toutes les migrations d'aujourd'hui. Le livre comporte donc 4 parties, famille et amis, la guerre, migrants et moi, reprendre la route. Il s'ouvre également sur une très belle préface écrite par Michael Rosen lui-même et qui nous invite à réfléchir avant même d'avoir lu les poèmes.
Nous ne pouvons bien sûr pas vous lire le recueil de poèmes en entier, mais nous allons vous en lire certains, ainsi qu'un extrait de la préface.
Voici donc pour commencer des extraits de la préface.
La poésie est la migrante, celle qui voyage. La poésie est la témoin, celle qui écoute. La poésie est la survivante, celle qui persiste. La migration est le grand récit de l'espèce humaine. Tout ce que nous savons de notre histoire, des plus anciens fossiles jusqu'à aujourd'hui, nous enseigne que les êtres humains n'ont jamais cessé de se déplacer d'un endroit à un autre. Parfois pour travailler, parfois pour étudier, mais souvent pour fuir le lieu où ils vivaient. On se réveille un matin et tout a basculé en une seule nuit dans son pays. Un autre pays l'a envahi, par exemple, et on doit partir pour sauver sa peau. Inopinément, voilà qu'on doit prendre la route d'une manière ou d'une autre, à pied, en voiture, en train, en bateau, pour tenter de se rendre en lieu sûr.
Plus loin.
Mais migrer, ça n'arrive pas qu'aux autres. Jetez un œil à votre arbre généalogique. Où que vous habitiez aujourd'hui, vous apprendrez très probablement que vos ancêtres y sont arrivés en tant qu'émigrés.
Plus loin encore.
Dès l'enfance, j'ai su qu'il manquait des gens dans mon arbre généalogique. Des tantes et des oncles qui étaient en vie avant la Seconde Guerre mondiale, mais pas après. J'avais conscience qu'ils avaient disparu, mais il paraissait impossible de comprendre ce qui leur était arrivé. J'étais bien au courant que mes tantes et mes oncles étaient juifs, comme le reste de ma famille qui vivait à Londres. C'est à l'adolescence que j'ai compris que le parti au pouvoir en Allemagne, pendant la guerre, les nazis, avaient orchestré le meurtre de 6 millions de juifs durant ce que l'on appelle aujourd'hui l'Holocauste. Dès que j'ai découvert cela, je me suis mise en tête de comprendre ce qui leur était arrivé. J'étais déterminée à me souvenir d'eux.
Enfin, il termine sa préface par un appel au lecteur.
Je voudrais que ce recueil montre comment tendre la main, comment apprendre à partager ce qui fait notre humanité. Nous sommes tous et toutes des citoyens du monde. À chacun de trouver son chez-soi.
Place maintenant aux poèmes que nous avons choisis. Nous avons également dit ces poèmes lors de la cérémonie de commémoration à la mémoire des enfants juifs déportés le 27 janvier. On vient tous de quelque part.
On vient tous de quelque part. On a tous une histoire. On est tous quelque part. On meurt tous quelque part.
Quelque part au bout d'un couloir, en un ou deux clics de souris. Tout au fond d'un placard, dans des bois de déménagement, il y a ma vie
et votre vie, par morceaux, par fragments.
Tout à coup, voilà votre nom. Tout à coup, voilà une adresse. Parfois, en lettres d'imprimerie, parce que c'est officiel, et parfois, juste un gribouillis que l'on déchiffre à peine.
On vient tous de quelque part, on a tous une histoire, on est tous quelque part, on meurt tous quelque part.
C'est des petits cailloux sur un chemin, l'histoire des gens qui vont et viennent. C'est des petits cailloux sur un chemin, votre histoire et la mienne.
On vient tous de quelque part, on a tous une histoire, on est tous quelque part, on meurt tous quelque part.
Rien. Parmi vous, il y en a qui ne savent rien, et vous ne dites rien.
Parmi vous, il y en a qui en savent un petit peu, et vous ne dites rien.
Parmi vous, il y en a qui en savent beaucoup, et vous ne dites rien.
Vous ne dites rien, c'est l'impossible à dire. Vous ne racontez rien, c'est l'impossible à raconter. Vous ne parlez pas de ce que vous savez, savoir est impossible.
Plus jamais.
On dit plus jamais.
Mais quand les puissants montrent du doigt ce côté-là, quand plein de personnes pensent de ce côté-là, quand les balles, les bombes tombent de ce côté-là aussi,
tout peut recommencer. Tout recommence encore, tout a déjà recommencé. Parfois, furieusement, n'importe comment. Parfois, calmement, comme il faut. Parfois avec des lois, parfois non.
Les gens qui font ça croient parfois qu'ils le font pour sauver leur pays.
Les gens qui font ça croient parfois qu'ils ne font que reprendre leur dû.
Voilà pourquoi tout peut recommencer. Tout recommence encore, tout a déjà recommencé.
Quand ils font la guerre, ils oublient comment on compte. Ils oublient comment on compte et c'est comme ça qu'ils gagnent. Ils arrivent et ils tuent. Ils tuent et ils repartent.
Pas de nombre, pas de nom. Ils les éclipsent, ils les effacent et c'est comme ça qu'ils gagnent.
Ils arrivent et ils tuent. Ils tuent et ils repartent.
Ça vaut la peine,
ils disent.
Et ils veulent qu'on les croie. Ça vaut la peine si tu ne sais plus compter. Si tu oublies les nombres, si tu oublies les noms, si tu oublies tous les visages.
Quand ils font la guerre, ils oublient comment on compte. Ils oublient comment on compte et c'est comme ça qu'ils gagnent.
Mais nous, on compte.
Regardez-nous, on compte. Écoutez-nous, on compte. Nous sommes ceux qui comptent.
On n'agit pas hier, on n'agit pas demain. Agir, c'est seulement aujourd'hui. D'hier, on peut se souvenir. Demain, on peut le prédire. Mais agir, c'est seulement aujourd'hui.
Tes actions d'hier peuvent aider à préparer celles d'aujourd'hui. Celles d'aujourd'hui peuvent aider à préparer celles de demain.
Mais
agir, c'est seulement aujourd'hui.
Voilà, nous vous avons déclamé nos poèmes préférés du recueil.
Maintenant, retrouvez quelques témoignages d'élèves de la classe qui ont voté pour ce livre gagnant.
Moi, j'ai voté pour le recueil gagnant car le recueil est très émouvant et je trouve que l'auteur a mis du cœur en écrivant ce poème.
J'ai voté pour ce livre car je trouve que c'est important de montrer à tout le monde, aux petits et aux grands, qu'il s'est passé beaucoup de choses avant nous et avant nos parents.
J'ai voté pour ce livre car l'auteur nous plonge au cœur de l'histoire et ça nous donne envie de lire.
J'ai voté pour ce livre car l'auteur nous raconte ce qui s'est passé avant nous.
J'ai voté pour ce livre car l'auteur nous raconte ce qui s'est passé avant nous, les parents, tout. Il nous explique que la vie était dure pour lui. Mais pour nous, on a de la chance.
Moi, j'ai voté pour ce livre car le poète nous donne une leçon de vie et j'ai trouvé ça très émouvant.
Après ces quelques témoignages, nous voici arrivés à la fin de notre rentrée littéraire. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné plein d'idées pour vos lectures. Encore un grand bravo au livre vainqueur et à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.
École Libris.
École Libris,
les livres
qu'il faut
lire,
lire,
lire.
Libris.
qui me harcèle et me martèle. Ma tête sans tête a chanté la mélodie d'ailleurs. Et je chante l'air de l'étranger qui veut changer sa condition sans condition. Et je chante l'air de l'étranger qui veut changer sa condition sans condition.
Il retape sur la tête. Boum, boum.
Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en grande première mondiale le
poème du poète. C'est pour dire tout cela et mille et mille et mille autres choses. Pas besoin de comprendre.
Bonjour, je m'appelle Mélina. Je vais vous réciter le poème Nouvel An chinois. Nouvel An chinois. Demain, c'est le Nouvel An. Il faut trouver des rubans, le rouge est nécessaire pour repousser le dragon vert. Nien, le méchant dragon, avait pour certitude de manger dans les maisons. Les familles entières, quelle attitude! Alors, pour définitivement l'éloigner, des torches il fallait allumer et des pétards faire claquer. Ainsi, la nouvelle année pouvait commencer. Fabienne Berthomier.
À quoi ça sert de faire du sport?
J'aime beaucoup faire du sport.
C'est vrai que les garçons sont égaux aux filles?
Débattre, c'est intéressant ou pas?
X-Sagesse.
Bonjour, nous nous appelons Adem, Camille, Aïlan, Mohamed Ali, Lina, Noam, Mélina et Lukash. Nous avons 7 ans et nous sommes les élèves de la classe de C1A, l'école Rosaline Franklin à Ivry-sur-Seine.
Au mois de janvier, avec les essentiels d'un jour, une actu, nous avons travaillé sur la politesse.
Sur l'affiche, il y a quelqu'un qui pète, mais avec un doigt sur la bouche.
Elle veut que personne n'entende.
Pour éviter qu'il se moque, car ce n'est pas très poli.
Ça sent mauvais et ça fait du bruit, donc ça va déranger les autres. C'est pour ça que ce n'est pas poli. folie.
Il y a aussi des ciseaux qui coupent une bulle de BD pour illustrer une impolitesse que l'on fait souvent, c'est couper la parole.
C'est important de laisser l'autre finir ce qu'il a à dire.
C'est du respect et ça permet de pouvoir mener une discussion.
C'est pour ça qu'on doit lever la main à l'école pour prendre la parole.
Oh !
Nous voyons une personne qui crie sur une autre et qui lui fait un doigt d'honneur.
Il est très vulgaire, il fait du mal à l'autre personne.
You bastards.
Thank you very much.
Il y a trois bulles avec des messages merci, pardon, s'il te plaît.
Ce sont les premiers mots de la politesse que l'on apprend.
Ce sont les mots qu'on nous demande de répéter depuis qu'on est tout petit.
La politesse, c'est se respecter. C'est écouter les autres. C'est ce dont on a besoin pour vivre ensemble.
C'est quoi la politesse?
Bienvenue au théâtre Antoine Vitesse.
Bonjour, je m'appelle Sarna.
Nous sommes les petits correspondants du théâtre Antoine Vitesse. Je vais vous présenter Gloria.
Coucou.
Maïssa.
Salut.
Sonia.
Coucou, c'est moi.
Farel.
Coucou.
On va vous parler du spectacle qui s'appelle En apparence. On y est allé avec le centre de loisirs de l'école Maurice Thorez B le mardi 24 janvier.
Est-ce que ça vous a plu?
Oui.
Oui.
Oui. Alors, oui. Êtes-vous prêts à tricher sans limite, à brouiller les pistes? Ici, la vérité n'existe pas.
Un pyjama à fleurs ou à carreaux, violet ou indigo, quoi de plus doux? Un pyjama, c'est un cocon moelleux. Pour dire, c'est un peu comme un doudou. Mon pyjama, je le garde volontiers. Pour aller au boulot, c'est moins étriqué et plus rigolo. En pyjama, j'adore me balader dans la rue, sur les quais, dans le métro. De satin, de velours, c'est un pas de côté, c'est un art de vivre. Moi je me suis lancé, vous n'avez qu'à me suivre. En pyjama, le pire des dictateurs, a l'air d'une jolie fleur d'un koala. En pyjama, on marche sur un fil de la terre à la lune en somnambule. En pyjama, oh, c'est fatal, on ne peut pas se prendre au sérieux. Alors on rit de tout et de soi surtout. En pyjama, longtemps après la nuit. On fait durer ses rêves, on fait une trêve, on ralentit.
Bon, on va commencer par les présentations. Enfin, du coup, vous m'avez déjà vu.
Oui.
Et moi, bah, je vous ai aperçu de loin. Du coup, je m'appelle Étienne. Ça, c'est mon vrai nom. Et même, mon vrai nom, c'est Étienne Villemino. J'aime bien écrire mes propres chansons et après, bah, les interpréter, les chanter. Donc, d'ailleurs, mon métier, c'est trois métiers en un. C'est auteur, compositeur, interprète. D'ailleurs, là, le spectacle, je ne l'ai pas écrit et composé tout seul. On l'a écrit, les textes sont écrits avec un autre auteur de chansons qui n'est pas sur scène, qui s'appelle Thibaut de Fevert. Et les musiques, elles ont été écrites en collaboration avec Thomas, le guitariste, et avec Mélissa. Et aussi avec Thibaut de Fevert.
Préférez-vous être sur scène avec quelqu'un ou seul ?
Enfin, je crois que les plus grandes émotions, finalement, elles étaient en solo parce que c'est très difficile d'être en solo. Parce que ben, on peut se reposer sur personne, parce que des fois, ben, quand on se plante, ben, ça se voit encore plus que quand on est plusieurs. Ah, non, je t'en prie. Alors là, c'est Marie, c'est elle qui a fait la mise en scène du spectacle. Voilà. Et derrière, c'est Vincent, c'est lui qui s'occupe des lumières, qui est régisseur lumière et régisseur général. Voilà.
Combien de pièces de théâtre avez-vous fait ?
Alors, c'est pas vraiment des pièces de théâtre, hein. C'est un mélange entre concert et théâtre. Bah là, je crois que c'est la sixième. C'est le sixième concert, comme ça. Ouais. Quand j'ai choisi de faire ce métier, de commencer à chanter et à écrire des chansons, j'ai pris un autre nom. Un nom de scène, voilà. Quand je fais des spectacles, j'utilise ce nom de scène, c'est Tony Melville. Donc en fait, j'ai inversé les lettres. J'ai fait Tony Melive. Je dis, bah, ça fait presque prénom et nom. Donc j'ai ajouté un Y parce que le prénom Tony, bon, il y en a qui écrivent avec un I, moi j'ai choisi le Y. Et Melville, j'ai inversé le V et le L. Melville, c'est un prénom assez rare, mais c'est un prénom. Melville, c'est aussi un auteur, Herman Melville, un auteur de roman, Moby Dick, je ne sais pas si vous connaissez, un roman très célèbre. Et puis, il y a aussi un réalisateur de films, alors assez vieux, Jean-Pierre Melville. Donc voilà, il y avait des références, moi, qui m'intéressaient.
Comment vous vous êtes inspiré de cette scène, de cette pièce de théâtre ?
D'où vient l'inspiration ? L'inspiration, les idées. Alors, au tout début hein, de ce projet, il y a eu un événement marquant. Moi, j'ai un fils qui a 9 ans. Je sais pas quel âge vous avez, vous.
10 ans.
8. Bon, à peu près votre âge, voilà. Et quand il était en maternelle, il est allé au carnaval de l'école. Et donc, il était petit, il devait avoir 4 ans. Hein. Et au carnaval de l'école, il a voulu y aller avec un déguisement de Reine des Neiges. Et les autres se sont moqués de lui. Parce que c'était un garçon et qu'il avait un déguisement de Reine des Neiges. Et il a été très triste. Parce que les autres enfants se sont moqués de lui. Mais il y a même des adultes qui se sont un peu moqués de lui. Donc, l'année d'après, quand il allait au carnaval, il avait toujours hyper envie de se déguiser en princesse, en reine. Enfin voilà, il voulait mettre une robe. Absolument, c'était son désir le plus profond. Et il avait bien vu que ça créait chez les autres de la moquerie ou des questions. Et il s'est dit, mais en fait, pour contrer, pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est que je vais inventer un déguisement dont on pourra moins se moquer. Et donc, il a quand même mis une robe, mais il a aussi mis des gants de Spider-Man, il a aussi mis une coiffe d'Indien, il a aussi mis un bracelet, enfin voilà. Et donc, en fait, il a inventé un mélange. Et ben, ça a eu son petit effet. Et je me suis dit, bah, c'est vachement intéressant, notamment parce que c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde, mais notamment aux enfants, à partir de 7 ans. C'est dit, bah, c'est une question qui va être intéressante à aborder, un thème intéressant pour en faire un spectacle. Voilà comment ça a démarré, l'inspiration de ce spectacle.
Est-ce que vous êtes-vous déjà trompé sur scène ?
Ah, est-ce qu'on s'est déjà trompé ? Oui. Bah, aujourd'hui, je me suis trompé. À un moment, je sais plus, je me suis en berlificoté là dans un bout de texte. Mais bon, ça, est-ce que vous en êtes rendu compte ?
Non.
C'était un petit texte entre deux chansons. Et alors, on se trompe très souvent. Hein. Franchement, quand on fait du spectacle comme ça, on se trompe très souvent. Après, quand on a l'habitude, bah, on se trompe discrètement. Ça se voit pas. Mais il y en a qui se voient, il y en a qui se voient pas. Puis c'est pas grave parce que ce qu'ils vont nous expliquer tout à l'heure, c'est un spectacle vivant, donc on le fait devant vous. Et on le fait une seule fois. C'est pas comme au cinéma. Au cinéma, qu'est-ce qu'on fait ? On filme. Et si c'est pas bien, on refilme. On refait une nouvelle prise. Et jusqu'à ce que ce soit parfait. Ou alors, quand on enregistre un disque, on va en studio et on enregistre et on réenregistre jusqu'à ce que ce soit parfait. Mais quand on fait un spectacle, un concert, et ben c'est en direct. Donc si on se trompe, on se trompe.
Combien de temps mettez-vous pour préparer une pièce de théâtre ?
Alors, il y a deux choses différentes. Il y a ici, on est arrivé lundi matin pour installer, pour commencer à jouer mardi après-midi, hier après-midi. Donc, un jour et demi pour installer tout le décor, qui est complètement démonté, hein, qui va dans un camion. Donc, tout ça, ça fait partie du spectacle, c'est le décor du spectacle. Installer aussi tous les instruments de musique et la lumière. Voilà, parce que derrière vous, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux postes de régie, une régie son et une régie lumière. Donc, un jour et demi, ça, c'est pour s'installer dans une salle avant de pouvoir jouer le spectacle. Par contre, entre le moment où on a eu l'idée du spectacle et le moment où on a fait les premières représentations, il y a à peu près 2 ans. Alors pendant ces 2 années-là, on ne fait pas que ça, mais 2 ans pour constituer l'équipe, trouver des partenaires, écrire, beaucoup de travail d'écriture, concevoir le décor, les costumes, la musique, etc. Voilà. Et il y a une douzaine de personnes qui ont travaillé sur ce spectacle. Oui ?
Qui vous a poussé à faire ce métier ?
Ce qui m'a poussé à faire ce métier, moi j'ai fait de la musique depuis que je suis tout petit. J'ai commencé le violon quand j'avais 4 ans et demi. Ouais, j'étais tout petit. Et donc, quand j'ai commencé à faire des études après le bac, peut-être je faisais de la musique comme ça. Hein, j'avais pas du tout. Parce que j'avais appris le violon classique. Donc j'avais pas spécialement envie d'être musicien classique. Et donc j'avais laissé un peu ça de côté. Mais par contre, j'ai commencé à jouer dans différents groupes, dans différents spectacles de théâtre, de danse, de chansons, des spectacles de rue. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses différentes et j'ai adoré ça. J'ai adoré cet endroit de salle de spectacle. Je me suis tout de suite senti à l'aise. Enfin, je me suis dit, enfin, je me suis jamais posé de questions. C'est toujours ça que j'ai voulu faire depuis que j'ai. Depuis que je suis en âge de travailler, depuis que j'ai 18 ans.
Préférez-vous faire rigoler les gens ou les faire pleurer ?
C'est très agréable de faire rigoler les gens. C'est parfois pas si facile de les émouvoir. Les faire pleurer, c'est rare quand même, hein, d'émotion. Moi, il y a un truc que j'aime pas trop. Je vous délivre un petit secret. C'est quand on fait rigoler avec des trucs un peu trop faciles. C'est pour ça que je suis pas très fan des spectacles d'humour. Des fois, je trouve que ça force un peu le rire. Voilà. C'est mon goût, hein.
Comme ça.
Ouais, des fois. Ah, j'arrive, il était là, et hop.
Est-ce que vous avez déjà eu des petites fins sur scène ?
Non, mais quand t'es sur scène, tu ressens pas. Il y a un certain nombre de choses que tu ressens pas. Par exemple, la faim ou envie de faire pipi, voilà. En fait, quand on est sur scène, il y a un phénomène qui se passe dans le corps, d'adrénaline, voilà. Donc notre corps se met dans un état particulier, ce qui fait qu'on ne ressent pas un certain nombre de choses. D'ailleurs, il y a des histoires célèbres où on ressent pas la douleur. Il y a même des gens qui se sont blessés et qui ont réussi à jouer quand même.
Vas-y.
Depuis quand le théâtre Antoine Vitesse existe-t-il ?
Depuis 1980.
Mais ici, c'est un théâtre qui est assez célèbre parce que Antoine Vitesse, c'est un metteur en scène très connu du monde du théâtre. Et c'est un des premiers à être vraiment venu dans un quartier plus populaire et à sortir de Paris pour vraiment faire du théâtre avec les habitants.
C'est lui qui a l'initiative qu'on appelle le théâtre populaire. Le théâtre populaire, ça a été vraiment une volonté d'aller chercher du public en disant que le théâtre, c'était nécessaire et nécessaire à tout le monde.
Bienvenue au théâtre Antoine Vitesse.
Sommes-nous dans la cour?
Alors là, on est sous le préau. On est du coup dans un espace qui est assez sombre. Et de manière générale, on voit que la cour, elle est plutôt noire et blanc. Et le projet de cour oasis, puisque on est quand même là pour en parler aujourd'hui, le projet de cour oasis dans votre cour, il vient du fait qu'on a besoin de transformer la cour. Et on peut se demander pourquoi. Déjà, ce qu'on a en face de nous, ça nous montre que c'est une cour qui n'est pas forcément pensée pour ses premiers usagers que sont les enfants, donc vous. Parce que, du coup, de manière assez classique, on a une grande surface de bitume noir, donc, de rares éléments végétaux. On voit qu'on a deux arbres qui ne sont pas en très bonne santé dans deux pots. On a un accès aux toilettes derrière nous. On a de rares éléments de mobilier, donc on voit qu'on a deux bancs et deux tables de pique-nique. Et de manière générale, c'est une cour qui a été réalisée comme toutes les autres cours jusqu'à aujourd'hui, en étant un peu un impensé, parce que c'est pas pensé directement pour les enfants, mais plutôt pour la surveillance des enfants, la propreté de la cour et la sécurité. Puisqu'on voit que c'est tout plat, comme ça on risque pas trop de tomber. Est-ce qu'il arrive bientôt maintenant?
Est-ce que ça marche? Ouais. Pouvez-vous vous présenter?
Alors, je m'appelle Hugo Le Goff, donc je suis paysagiste concepteur. Et dans mes études et dans mon métier, je me suis spécialisé sur la gestion de l'eau dans la ville. Donc j'ai donné beaucoup d'importance à la présence de l'eau dans le paysage, que ce soit la rivière ou juste la goutte d'eau qui tombe du ciel sur le sol, et à la concertation.
Qu'est-ce qu'un paysagiste ?
Alors, un paysagiste, c'est un métier de l'aménagement. Donc c'est quelqu'un qui fait des plans de l'espace public. Donc l'espace privé, c'est quand vous êtes chez vous, et l'espace public, c'est la rue, c'est-à-dire ce qui appartient à la ville. En l'occurrence, pour vous, c'est votre cour de récréation. Et donc le paysagiste, il dessine par exemple, en milieu urbain, ça peut être des rues, des places, des... et donc il dessine des plans, et ensuite il va jusqu'à la fin des travaux, il suit des travaux, et son objectif c'est de rendre la ville plus agréable à vivre.
Où travaillez-vous actuellement et sur quel projet ?
Moi je travaille au CAUE du 94, donc c'est une association à l'échelle du département, donc j'accompagne des communes dans leurs projets d'espace public à l'échelle de tout le Val-de-Marne.
Un paysagiste travaille-t-il plutôt en milieu urbain ou rural ?
Ça peut être les deux. L'espace public en ville, c'est donc comme je vous disais les rues, les places, les parcs, les jardins de la ville. Et en milieu rural, ça peut être un parc naturel régional, un parc national, ça peut être des berges d'un cours d'eau, ça peut être des sentiers de randonnée, il peut gérer l'accueil du public dans des espaces naturels. Et il peut travailler sur la restauration écologique d'un cours d'eau, c'est-à-dire rendre ses berges plus naturelles.
Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce métier ?
Dans le métier de paysagiste, on a la difficulté que dans la ville, de manière générale, la nature, elle est quand même assez souvent reléguée à la dernière place, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prioritaire par rapport à d'autres métiers d'aménagement comme l'architecture, le bâti, ça rapporte plus d'argent à la construction qu'un espace public qui, lui, rapporte assez peu d'argent. Donc, il y a cette difficulté-là d'essayer d'être intégré au projet dès le début pour avoir un impact sur la structure globale du projet. Sinon, il y a le fait qu'en ville... Il y a beaucoup... En fait, le sol, on le voit pas comme ça, mais il est truffé de réseaux, des tuyaux sous le sol, donc des tuyaux où il y a de l'électricité, de l'eau de pluie, de l'eau usée, du gaz, des réseaux de communication télécom. Et du coup, ben, c'est difficile de retrouver un sol qui permette de planter... de la végétation, des arbres, de manière générale. Parfois, c'est des sols qui sont pollués, parfois, ils ne permettent pas d'infiltrer l'eau comme on voudrait.
Comment devient-on paysagiste ?
J'ai fait un bac général, ensuite j'ai fait un BTS aménagement paysager. Donc le BTS, c'est une formation technique sur les sciences du vivant et les aspects plus techniques de l'aménagement. Et ensuite, j'ai passé un concours en bac plus 2 pour une école d'architecture et de paysage.
Depuis quand faites-vous ce métier ?
Ça fait 5 ans que je fais ce métier. Ça fait 1 an et demi que je travaille au CAUE du Val-de-Marne.
Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ?
Donc, le paysagiste, il travaille avec des matériaux de construction qui sont inertes, minérales, enfin le ciment, la pierre, le béton, etc. Mais il travaille aussi avec le vivant, la terre, le sol vivant. Les végétaux, la végétation et l'eau. Donc il y avait cet aspect-là qui me plaisait bien. Après, il y a un deuxième aspect, c'est que le métier de paysagiste, ça demande de l'imagination et de la créativité. En fait, on utilise le dessin pour représenter ce qui existe, pour le comprendre, et pour représenter aussi ce qui existera plus tard. Donc dans ces cas-là, ça demande un travail d'imagination. Donc l'objectif du paysagiste, c'est de ramener la nature en ville. Et c'est le troisième aspect qui me plaisait du métier.
Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le CAUE et sur quel type de projet travaillez-vous ?
Donc CAUE, ça veut dire Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. On accompagne les porteurs de projets et on essaye de les conseiller pour que leurs projets d'architecture... d'urbanisme et d'environnement soit d'une bonne qualité. Et il y a aussi la sensibilisation et de la transmission en général. Ça peut se faire pareil pour toutes sortes de publics. Et l'objectif, c'est de sensibiliser, par exemple, à l'environnement.
Pouvez-vous nous parler du projet Cours Oasis mené dans notre école ?
Donc, le projet de la cour Oasis dans votre école, c'est un partenariat entre le CAUE et la ville, et l'école du coup. L'objectif, c'est de transformer la cour, désimperméabiliser, de planter des arbres pour rafraîchir l'atmosphère. Et surtout, le plus important dans tout ça, c'est la concertation et la co-conception. Donc, il y a eu 24 heures d'atelier dans les deux écoles, donc 48 heures en tout, que les enfants puissent donner leur avis sur le projet. Étant donné que vous êtes les usagers de la cour, est-ce que, et du coup c'est vous qui la connaissez le mieux, c'est vous qui êtes les plus à même d'expliquer ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, c'est-à-dire quelle utilité ça a pour vous, comment vous jouez dans la cour, quelles sont les règles, quels sont les espaces calmes, les espaces dynamiques. Et donc, ben, ça s'est fait au travers d'outils comme la maquette. Et les enfants ont pu proposer des activités, des jeux, des différentes ambiances dans la cour au travers de leur maquette. Et tout ce travail-là, ensuite, ça a fait l'objet d'une exposition ouverte au public avec les parents d'élèves, les gens de la ville, mais du coup aussi les autres enfants. Et l'objectif, c'est que ben, tout ça, ça remonte à la ville. Toutes les aspirations, les besoins ou les rêves que vous avez pour votre futur cours, l'objectif, c'était que ça revienne aux oreilles de la ville. Donc ça s'est fait sous la forme d'une note de recommandation qui a été donnée à la ville. Et ensuite, la ville fait son projet par rapport à tout ce qui a été dit pendant la concertation.
Alors, donc on va commencer l'interview pour ce reportage. C'est un reportage, donc les deux experts, Céline et Annabelle, qui vont nous raconter un peu leur travail en tant que éco-délégués. C'est ça, si je me trompe.
Bonjour, je m'appelle Céline et je suis dans la classe des CM1B.
Bonjour, je m'appelle Annabelle, je suis dans la classe des CM1-CM2.
Ok. Et donc, vous avez participé à ce projet. Alors, du coup, vous avez travaillé comment, vous, les filles, pour aboutir à ce projet? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Qu'est-ce que vous avez dû faire?
Le projet Oasis. D'abord, au premier cours, on a été dans la cour. On s'est installé, on a regardé le sol, ce qu'on entendait, ce qu'on voyait.
Oui, on avait fait des jeux aussi dans la cour pour voir ce qu'on faisait. En fait, un peu, on avait dit, par exemple, jouer à cache-cache et on devait se cacher. Et du coup, après, on disait que notre cour, elle n'était pas très bien pour le cache-cache, vu que ben, y avait pas énormément de cachettes. Et on a fait des jeux comme ça pour voir ce qu'on pouvait bien faire dans notre cour et ce qu'on pouvait, qu'on avait du mal à faire dans notre cour.
Et après ?
Après, on est parti faire une balade au bord de la Seine. Et ils nous ont dit de nous cacher dans les bois,
les mêmes trucs qu'on a fait dans la cour.
Dans la cour, mais on a fait les mêmes choses dans la cour, mais c'était plutôt dans la nature, etc.
Oui, donc c'était plus facile.
Au bout d'un moment, dans la cour, ils nous avaient demandé de nous allonger et d'entendre, de voir ce qu'on entendait, ce qu'on ressentait sur le sol. Et on a fait la même chose au bois et on a tous été d'accord pour dire que c'était plus agréable au bois.
Oui, et c'était différent. Et après, on a été dans la salle, on a fait des dessins de comment on voulait notre cour. Et après, on a fait des maquettes avec de l'argile. On avait un bloc d'argile. On devait faire dessus ce qu'on voulait comme cour, en fait, un peu.
Donc, après avoir fait ça, l'idée, c'était qu'ils reproduisent au mieux, en fait, ce que vous avez mis sur vos maquettes.
Oui, un peu, mais aussi on a fait. C'était aussi pour voir ce que voulaient les élèves. On pouvait pas mettre toutes les maquettes en même temps dans la cour, vu qu'on était seulement par groupe de 4. Mais on pouvait voir d'éventuels. Par exemple, si tout le monde a mis de la pelouse sur sa maquette,
mettre de la pelouse dessus.
Il avait dit que les travaux se feraient cet été, mais on n'est pas sûr de ce qu'on va faire.
Moi, je propose qu'on mette plus de poubelles dans chaque endroit de la cour, pour que la cour ait plus aménagée.
Et c'est vrai parce que...
Et je trouve quand même, de mon point de vue, quand nous on est arrivés, bah, quand je dis nous, les CM2, quand on arrivait en CP, je sais pas si vous vous rappelez, vous vous rappelez pas, il y avait plein de fleurs, etc.
Ah oui,
il y avait des fleurs, il y avait des arbres, sauf que entre temps les gens, ils ont arraché les fleurs. Ils ont pas pris soin de des plantes, parce que je sais pas s'ils savent que les plantes, c'est très important pour nous. C'est pour, il y a de l'oxygène, ça rejette de l'oxygène et ça aspire le CO2. Donc je pense que c'est très important d'avoir de la végétalisation.
Alors dans le fond, il y a quand même une toute petite bande de terre qui était censée être végétalisée à la base quand l'école a été rendue, enfin quand le chantier de l'école a été terminé en 2015. Sauf que la terre, en fait, elle est tellement compacté qu'il n'y a rien qui a poussé, et donc pour remplacer les plantes grimpantes éventuelles qui auraient poussé et qui auraient caché la vue des grilles, on a mis des bâches en plastique qui du coup rendent opaque la vue, mais qui empêchent aussi de la lumière de passer. Du coup, l'objectif c'est de retrouver de la pleine terre, et aussi d'avoir une meilleure gestion de l'eau de pluie. Parce qu'en fait, là, on voit que l'eau de pluie dans la cour, elle se dirige vers ce qu'on appelle les avaloirs, et donc vers les égouts. Donc c'est considéré comme un déchet, en fait. À partir du moment où l'eau, une goutte de pluie, elle va dans les tuyaux d'égout, elle ne reverra jamais la nappe phréatique. C'est des grandes grottes où il y a l'eau qui s'accumule en sous-sol. Et en fait, quand on est en ville, eh ben, le sol, il est imperméable. C'est comme quelque chose où l'eau ruisselle, c'est-à-dire elle coule, mais elle ne s'infiltre pas dans le sol. Et donc, il y a aussi le problème que, ben, ici, dans cette cour, j'ai fait des relevés météorologiques, juste de température le 11 septembre. Il faisait 28 degrés à l'ombre et 35 degrés au soleil. Et le problème, c'est bien que c'est que du bitume, parce que la terre, ou un sol vivant, ou les arbres, ils ont ce pouvoir de rafraîchir l'atmosphère. Et donc ici, déjà, on n'a pas d'ombre, à part celle portée par les bâtiments. Et on n'a pas, du coup, l'aspect tampon que le sol peut faire pour rafraîchir l'atmosphère. Et donc l'objectif, c'est de désimperméabiliser, d'enlever une partie du bitume, pour retrouver de la pleine terre et donc pouvoir planter des végétaux, des arbres qui vont apporter de l'ombre.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour, puisque nous avons 2 minutes avant Bibliomanie, j'ai une petite annonce à vous faire qui concerne Montreuil, le théâtre de la Noue, c'est dans les Hauts-de-Montreuil, et c'est de la part des ouvriers de joie, c'est une troupe que je connais et que je vous recommande, et le théâtre de la Noue est 12 place Bertie Albrecht, le bus 122 arrêt Clos Français, le bus 115 arrêt Charles de Gaulle, tout ça c'est un petit peu après la mairie de Montreuil. Eh bien, le 9 mars à 19h, dans le genre drôle et instructif, pour une durée d'1h15, tout public, Anna Cotis reprend une pièce. C'est toujours très vivant ce qu'elle fait et c'est amélioré, ça change, ça évolue, c'est évolutif. L'histoire du sexe pour les femmes et ceux qui en connaissent par les ouvriers de joie. Anna Kotis est clown et prof de théâtre. Et elle vaut vraiment le coup de la voir sur scène. À partir de traces historiques à la manière de Dario Fo, elle revisite l'histoire du sexe du point de vue des femmes à travers une extravagante panoplie de personnages. Un regard vers le passé pour mieux voir les femmes d'aujourd'hui. Sans tabou ni vulgarité, on rit et on découvre. Les ouvriers de joie ont présenté la première version du spectacle au Théâtre de l'Anneau en 2014. Pendant 10 années de tournée, 3 festivals d'Avignon, le spectacle s'est actualisé continuellement. Mais plus ça change. Et on s'arrête là pour l'annonce est maintenant Bibliomanie.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique, vous l'avez déjà reconnu, l'incontournable Flo Descailloux, qui nous réserve un cocktail musical de son choix. Aujourd'hui, on va parler poésie, on va parler peinture avec Yannick Hennel, qui vient de publier Bleu Bacon aux éditions Stock, dans la collection, je crois, Ma nuit. Au musée. Yannick Hennel, vous êtes déjà venu plusieurs fois, chaque fois avec une palette de peintres sur votre bras.
Je vous remercie de votre fidélité et de votre attention. Oui, en effet, la dernière fois, c'était le Caravage, je crois.
Le Caravage, exactement. On
avait parlé. C'est Bacon.
Bacon. Quel est le lien, finalement, entre le Caravage et Bacon? Est-ce qu'il y a, y a la chair, il y a le corps, il y a l'ombre et la lumière? Quel est un peu le lien entre ces deux artistes, selon vous, Yannick Hennel?
Moi, je dirais comme ça, sans trop réfléchir, qu'il y a la violence. Mais je ne dis pas que le Caravage et Bacon sont des peintres violents, mais sont des peintres dont l'œuvre dénude la violence. C'est-à-dire qu'elle nous met en face de quelque chose qu'en général la représentation artistique refoule. Enfin, le Caravage avait fait scandale à l'époque, enfin, on est vraiment à la fin de la Renaissance, en cessant d'idéaliser les corps. Il y avait vraiment des ragazzi, des jeunes gens de la rue qui posaient déguisés en Bacchus, en Dionysos. Et le Caravage mettait l'accent effectivement sur pas seulement la sensualité des corps, mais le fait que le corps était le vrai sujet, enfin le sujet non refoulé, qu'il puisse être sale ou sublime, voilà, c'était la vie même. Je pense qu'il y a ça aussi chez Bacon. Enfin, Bacon, c'est autre chose. Enfin, on est après la Seconde Guerre mondiale, après la déflagration des camps d'extermination nazis, d'Hiroshima, Nagasaki, et lui va refuser de faire de l'art abstrait, parce qu'il détestait ça, il disait que c'était la décoration, c'est un peu injuste, mais enfin bon, il s'obstinait à continuer à figurer des corps, et à figurer l'infigurable des corps, disloqués, mais il y a cette même obstination à dire, mais voilà, il y a peut-être pas de transcendance, on est vraiment sur Terre, avec cette pesanteur de nos corps qui nous font souffrir, qui nous font jouir absolument aussi. Et voilà, on est enfermé. Ben, les tableaux les plus célèbres de Bacon, c'est quand même les corps humains, que ce soit celui du pape qui est sarcastiquement enfermé dans une chaise quasi électrique. Ben, ces tableaux sont des cadres, on est emprisonné, voilà. Et bon, c'est cette violence, moi, qui me... Je dis pas qu'elle me plaît, parce que c'est terrible à endurer les tableaux de Bacon, mais ça dit quelque chose de fondamental. Enfin, voilà, c'est des peintres qui dénudent la violence.
Qui la dénudent, qui font... Alors, le titre, Bleu Bacon, alors le bleu, d'ailleurs, vous dites, l'azur est irrésistible, son effervescence vous réveille. Le bleu est plus fort que le noir, il trouve ses ténèbres et s'écoule jusqu'à nous. Ce bleu Bacon, Yannick Hennel, c'est le... Là, on le voit en couverture, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez choisi
cette œuvre? Oui, j'ai tenu à ce qu'il y ait cette œuvre. Bah, je sais pas, les éditeurs, ils mettent la tête des écrivains. Bon, ça va, enfin, je veux dire, c'est bon. Je sais pas, je suis pas spécialement photogénique. Mais surtout, là, en l'occurrence, il y avait Bacon, quoi. Non, mais le bleu, c'est un peu un clin d'œil un peu provocateur au bleu Klein. Mmh. Mais alors, ça n'a rien à voir avec Yves Klein. En général, quand on pense à Francis Bacon, je ne pense pas qu'on pense au bleu.
Non.
On pense au rouge, au viscère, à quelque chose d'un peu plus violacé, peut-être. Mais moi, j'ai fait cette drôle d'expérience, enfin, d'avoir été... Bon, on va le raconter, mais
voilà,
d'avoir toute une nuit et eu la chance voilà, d'être face à des tableaux de Bacon. Et c'est ce bleu qui m'a sauté aux yeux, un bleu inespéré, un bleu finalement... j'allais dire salvateur, faut pas pousser. C'est un bleu d'effervescence, voilà. J'ai senti que la peinture de Bacon ne nous veut pas que du mal, et peut-être elle nous veut pas de mal. Il y a quelque chose d'assez, pour peu qu'on la regarde vraiment, il y a du bleu qui nous parvient.